c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmière Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée all inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, au programme de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. On va démarrer dans un instant avec notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça vient tout juste de sortir en salle. Ça s'appelle Testament, un film québécois. On va recevoir la productrice Denise Robert, accompagnée des comédiennes Caroline Néron et du comédien Rémi Girard. Nos coups de cœur télé cette semaine avec Anne Caillon à l'affiche de Bellefond demain soir sur France 3 pour un nouvel opus. Kamel Belghazi, toujours à l'affiche de Demain nous appartient. Marine Incanto et Vincent Hennen seront à l'affiche de la série Follow, dont vous verrez les épisodes 3 et 4, ça sera dimanche soir sur 13e rue. Et puis Alexandre Varga également sera notre invité exceptionnel pour Meurtre dans le Cantal qui sera diffusé samedi sur France 3. Et puis en fin d'émission, on parlera également de la sortie plateforme, ça c'est vendredi sur France.tv de Mère Indigne, la première série créée par Anne-Elisabeth Blateau, notre Emma de scène de ménage, s'essaye à la réalisation notamment, et puis surtout à la comédie. On recevra toute l'équipe quasiment avec Romain Fisson, le coréen réalisateur de Anne-Elisabeth, Khaled Amara, le producteur, ainsi que les comédiens Bayar Reaz et Jean-Baptiste Chelmerdine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à un coup de cœur québécois, une fois n'est pas coutume. Et on aime bien justement parler des films du Québec avec Testament, le nouveau film de Denis Arcand. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui notamment la productrice Denise Robert qui est avec nous. Bonjour Denise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également Caroline Néron qui est avec nous. Bonjour Caroline, qui joue une ministre dans le film.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être là. Et Rémi Girard qui incarne Jean-Michel
Bouchard.
Bouchard, que vous allez voir, vous allez très vite vous attacher. Qui a eu l'idée de départ de Testament? Parce que on y suit, on va en parler après, mais on y suit plusieurs histoires un peu en parallèle. Mais c'est d'abord évidemment l'histoire de Jean-Michel qu'on va suivre en premier. Une histoire de solitude en quelque sorte, de ne plus envie finalement, plus envie. Voilà, plus envie de vivre, forcément, voilà, à pleine dents, sans la fin, et on se dit, bah, on attend la fin patiemment, sans aucune dépression, aucune, mais voilà, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent dans le film, qui vont peut-être lui faire virer sa cutie, comme on dit en France. Mais on va en parler. Denise, pour commencer, donc, qui a eu l'idée de ce film?
C'est Denis Arcand. Alors, c'est pas quelqu'un qui a plus envie de vivre, au contraire, il a l'impression qu'il est rendu à la fin de sa vie.
Ça, je dis, c'est pas une dépression. Finalement, c'est quelqu'un qui se dit, bah, je suis au bout, tout simplement.
J'ai tout fait, j'ai écrit des romans qui ont pas eu beaucoup de succès, etc. Et qu'il a un regard très, très quotidien sur sa vie. C'est quelqu'un qui avance, qui rencontre des gens, qui, ces gens-là, vont un peu changer sa trajectoire et lui faire découvrir un peu de bonheur.
Exactement, lui apporter cette fenêtre de bonheur. Qu'est-ce qui vous a plu, Rémi, dans ce rôle de Jean-Michel au premier abord?
D'abord, cette espèce de réflexion que Denis a sur la vie, sur j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé son humour aussi. J'arrive moi-même à l'âge du personnage et j'ai évidemment pas la même vie que Jean-Michel. Je suis pas dans un foyer de pauvres vieillards, mais il y a des réflexions que tu te poses quand même. Est-ce qu'on est rendu enfin au bout de la vie? Puis tu regardes qu'est-ce que t'as fait dans le passé et tout. Je comprenais très bien ce que Jean-Michel Bouchard pouvait vivre sans la solitude, parce que lui, en plus, il y a la solitude. Il est dans un foyer pour personnes âgées. Et puis, c'est ça.
On appelle ça la maison des aînés, d'ailleurs, là-bas. On n'appelle pas ça, on appelle pas ça un EHPAD, on appelle pas ça qui est pas très joli, voilà, mais là-bas c'est la maison des aînés, je trouve ça beaucoup plus joli.
Oui, c'est beaucoup plus joli. Voilà un exemple de là où je suis en arrière, vous voyez. Moi j'appelle ça une maison pour personnes âgées, mais là faudrait pas dire ça. Comme on dit dans le film, faut pas dire ça, faut dire la maison des aînés, Rémi. Ah bon, je m'excuse, alors je m'excuse auprès des auditeurs, c'est la maison des aînés. Le film, c'est ça aussi. On parle de ça. Ah non, non, ce mot-là, c'est plus ça. Hein, c'est changé. C'est toute la réflexion, ça fait partie de la réflexion du film.
Oui, c'est vrai, la réflexion du film. Puis, on va y suivre plusieurs histoires, en fait, en parallèle, dont une importante. C'est une histoire de peinture qui va mettre un peu le feu aux poudres, et notamment d'une espèce de manifestation qui va se passer devant cette maison des aînés. Et d'ailleurs, la ministre va carrément être obligée de s'emparer un peu de l'affaire, finalement. Et on apprend plein de choses, finalement, sur le Québec. C'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans Testament, sur les Premières Nations.
En fait, moi, surtout, je pense que le rôle de mon personnage, c'est de démontrer que le gouvernement, finalement, on gouverne pas avec la réalité, mais avec les apparences. Donc, je relance la balle à tout le monde.
J'ai adoré, oui, cette réflexion.
Oui, tout à fait. Puis c'est un peu comme ça que je l'ai joué. J'avais des grands monologues. Et pour moi, c'était important d'avoir l'air convaincue et convaincante.
Ce qui est drôle aussi dans le personnage de Caroline, c'est que dans cette histoire-là, et toujours, le gouvernement ne dit pas comment on va solutionner le problème, c'est comment le problème va-t-il être perçu.
Oui,
où sont les médias? Est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'il y a les médias?
Il faut sauver les apparences, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est drôle.
Est-ce que les médias sont là? Oh merde.
C'est comme en France.
C'est ça. Mais en fait, Denis Arcand, c'est un historien. C'est ça qui, où il y a des scènes absolument délicieuses, c'est très drôle. Mais, comme Denis dit, dis-moi, là, j'ai pas le talent d'inventer les choses. Denis prend le miroir, puis il va mettre en scène ce qu'il a vécu ou ce qu'il a observé.
Il amène une sacrée autre réflexion, ce film, on va en parler juste après la bande-annonce, ça s'appelle Testament, c'est mercredi au cinéma. Denise, Caroline et Rémi, on revient juste après, à tout de suite.
Allez vous faire foutre.
Oh my god, est-ce qu'il y a des médias?
J'en ai pas vu encore.
C'est bizarre parce que d'habitude la vermine arrive assez rapidement.
Bonjour.
There's a painting in there that's an insult to First Nations.
C'est sûr?
C'est quelque chose, ça, madame.
Testament, c'est notre coup de cœur québécois. C'est notre cinquième, je crois, coup de cœur québécois. On aime bien, justement, parler de ce cinéma-là, qui est important en France et dont on a de plus en plus sa fenêtre. Et en plus, Testament amène une réflexion hyper intéressante. Peut-on avancer dans le futur sans renier notre passé? Et c'est un peu la question qui est posée à travers cette toile. Est-il important de la laisser à travers la manifestation, justement, de ces Premières Nations qui se revendiquent au Québec? Doit-on la laisser pour permettre aux générations futures de savoir ce que le passé a vécu? Ou est-ce qu'il vaut mieux gommer ce passé pour avancer plus vite, mieux, peut-être?
C'est ça, parce qu'il faut... moi, ce que j'en comprends, ce que j'apprends, faut pas juger le passé. Faut le regarder, l'apprendre. Et
qui peut nous aider à avancer.
C'est ça qui aide à avancer. C'est de savoir d'où on vient pour être capable de savoir où aller.
Rémi, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes d'une tendresse infinie avec cette jeune femme qui vient vous visiter toutes les semaines. Ça fait partie d'un peu de l'histoire solitude du film, et qui finalement apporte cette bouffée d'air toutes les semaines, qui vient tout simplement, voilà, discuter avec lui, vient passer un moment avec lui. C'est des moments de tendresse qui sont infinis,
et ça lui permet, lui, de, comme il est seul dans la vie, il y a pas d'amoureuse, il y a pas de femme dans sa vie, ça lui permet aussi de se poser des questions sur lui-même, de retrouver son besoin de dire « moi, j'ai la tendresse pour les choses, moi, je veux dire », de s'épancher. Tout ça. Alors, c'est pas une psy, c'est pas comme s'il était au psy. Non, c'est juste quelqu'un à qui parler, et quelqu'un à dire les vraies choses, quelqu'un qui nous écoute. Malheureusement, je dois payer pour ça.
c'est ça.
La réflexion terrible, c'est que les hommes, en général, doivent payer pour avoir un peu d'affection. Ça, c'est une des phrases que j'aime beaucoup.
Ça va pas être sans éveiller quand même un peu une pseudo-jalousie quand même de la directrice de la maison des aînés. Dites-moi.
Sans dévoiler rien de genre, mais je veux dire, il y a...
Sous la torture, il dira rien.
il y a une relation particulière avec la directrice. Je pense que mon personnage est secrètement amoureux d'elle.
Et elle a une affection particulière pour lui. On le sent aussi pour Jean-Michel, en tout cas. Bon, on va revenir sur cette ministre, Caroline. J'imagine le plaisir que vous avez eu à jouer ce personnage.
Tout à fait. Et je vous dirais, mais moi, d'emblée, je pense que Denis Arcand m'aurait demandé de faire n'importe quel rôle que je l'aurais pris. Parce que chez nous, Denis Arcand, c'est quand même quelqu'un, c'est un monument. C'est quelqu'un qui...
Cinéma québécois, oui.
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, et je vais vous avouer que c'est un challenge d'avoir à faire des monologues aussi grands et de pas comprendre totalement ce que je dis. Et ce que je me répétais à la lecture, c'est un peu à l'image, souvent, de la politique. Tu sais, il faut avoir l'air de savoir et d'être vraiment présent et d'être sur le terrain et de contrôler, alors que dans les faits, il y a tellement d'intervenants, qui fait que...
Fameuses apparences.
Exactement. Donc, pour moi, c'était très clair. En lisant le texte, je trouvais qu'il avait touché un point qui va probablement éveiller des gens par rapport à c'est quoi notre situation, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du changement? Parce que est-ce que ça se passe là ou ça se passe avec nous-mêmes?
Il y a une chose qui est à peu près similaire à la France. Ce qu'il va falloir réveiller, surtout, c'est les ministres derrière vous.
Ah, tout à fait.
Ça dort là-bas aussi, j'ai l'impression.
Mais je vais vous avouer que moi, je pense que c'est comme ça un peu partout. Tu sais, je pense que les changements, c'est nous qui peuvent les apporter. C'est les gens qu'il faut qu'ils se réveillent. C'est à chacun de nous de prendre notre histoire puis d'aller un peu pour reprendre ce que tu disais, Denis. C'est nous, c'est les réflexions qui... C'est ça que j'aime des films de Denis Arcand, c'est qu'on réfléchit tout le long et on comprend plein de choses. Et après ça, on peut faire notre propre jugement sur comment on veut continuer notre vie, là.
Merci. Merci beaucoup, Denise. Merci, Rémi. Merci, Caroline, d'avoir été avec nous.
Merci de votre générosité.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à Bellefond. On était là pour le premier épisode aux côtés de Émilie, Sarah Barbeau et avec Stéphane Bern. Et puis, on va mettre ces personnages à l'honneur au fur et à mesure des épisodes qu'on va découvrir. C'est le deuxième demain soir sur France 3. Et on va mettre le personnage de Anne Caillon à l'honneur qui est avec nous. Bonjour, Anne.
Bonjour Alain.
Quel bonheur de te retrouver. Écoute, franchement, on a l'impression qu'on s'est jamais quitté. À la fois, ben ça fait longtemps maintenant, hein, avec Demain nous appartient, qu'on a quitté le personnage de Fleur Valorta, et là on te retrouve dans ce personnage d'Audrey, en tout cas dans Bellefond, avec toujours ce sourire qui te va si bien, en tout cas, et ces petites répliques qui font souvent mouche avec ce personnage aussi. Hein.
Oui, on s'amuse avec ce personnage. Oui. En réaction au personnage de Stéphane, ça m'a beaucoup amusé parce que c'est pas du tout les mêmes tempéraments et c'est très très marrant à jouer. C'est un peu plus comédie, hein, parce que je jouais dans des...
Oui, exactement, parce que je crois que tes derniers temps, t'as pleuré beaucoup, hein, quand même. Hein.
Je crois que c'est que ça.
C'était que un ça. Truc de dingue.
J'ai ma vie avec des poches de glace sous les yeux.
Bon, en tout cas, là, on sourit effectivement. Quand on t'a dit, tu vas jouer avec Stéphane Bern, est-ce que ça crée quelques réticences, quelques peurs, où on se dit, ouah, chouette, ça va être un challenge parce qu'on va jouer avec quelqu'un qui est pas forcément habitué à jouer à la comédie, c'est un animateur. Comment on aborde ça?
Déjà, j'avais déjà joué avec quelqu'un, a priori, qui n'était pas voué à la comédie, Jean Kretschmann. Donc, on est quand même surpris par les gens. Parfois, en effet, ils n'ont pas de formation, mais bon, ils ont quand même le don pour. Après, c'est Stéphane Bern, qui était une grosse surprise. J'avais aucune idée qu'il avait des velléités de comédien. Et j'en ai parlé un peu autour de moi. Et ce qui m'a stupéfaite, c'est la popularité de ce garçon. C'est-à-dire combien les gens l'aiment, c'est inouï. Il fait l'unanimité. Et quand j'ai rencontré Stéphane, mais je suis tombée amoureuse de lui. C'est un garçon attentif, il est à l'écoute des autres, il est humble, très humble. En fait, c'est un petit peu, c'est sa marotte, il a envie de jouer. C'est, lui, c'est les deux mois où on tourne ensemble chaque année. C'est comme une récréation par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et oui. Il est dans le désir d'apprendre, qui est extraordinaire. C'est comme, il a cette candeur d'un débutant qui dit qu'il est, hein, et qu'il assume totalement, et un désir fou d'apprendre auprès de tous les comédiens qu'il côtoie, et à un point où parfois même il dit lui-même qu'il est au spectacle quand il nous voit jouer. Donc c'était très amusant et très rafraîchissant.
Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, Anne, comment tu pourrais nous définir Audrey?
Eh bien, c'est une personne plutôt droite dans ses bottes, un peu frustre comme personnage, qui a quand même son petit vécu, dont on parle peu, mais on comprend au début qu'ils ont eu une petite aventure quand ils étaient jeunes. C'était très, très amusant à jouer, d'ailleurs. C'est tout à fait improbable. Et elle est rentre dedans, elle va un peu trop vite. Elle fait des conclusions un peu hâtives, qui la met souvent dans une position à défaut vis-à-vis du personnage de Stéphane, de Bellefond, hein, parce que Bellefond, se pose davantage de questions qu'elle. Elle se pose peu de questions. Et ce qui crée des situations comiques aussi entre nous deux, où je suis très péremptoire avec lui, mais bon, cependant, il me vexe parce qu'il a toujours raison, hein, quand même. Et donc, voilà, c'est un personnage plutôt amusant et franc. Franc du collier, avec peu de zones d'ombre.
Bon, ouais. Et là, dans ce nouvel épisode, c'est Camille, hein, l'étudiante de Antoine Belfond, qui va venir l'appeler à la rescousse pour défendre son professeur accusé de viol, qu'elle pense peut-être être accusé. En tout cas, Camille, elle pense qu'il est accusé injustement. Et donc, elle va appeler Belfond à la rescousse. Mais, ben voilà, ce qu'on se doute pas, c'est que quand Belfond va aller interroger ce professeur incarné avec brio par François-David Cardonnel, oui. C'est que c'est ton personnage qui est sur l'enquête.
Évidemment.
Autrement, ça serait pas drôle.
Oui. Sinon, ça serait pas drôle. Mais bon, on fréquente un peu les mêmes régions et voilà, c'est les hasards de la vie, c'est extraordinaire. Et François-David Cardonnel, que j'étais d'ailleurs heureuse de retrouver parce que j'avais tourné cette série qui s'appelle Dos au mur avec lui il y a 10 ans.
Ouais.
Puisque je venais juste d'avoir ma fille et on avait tourné pendant 5 mois à Grenoble et je l'avais pas revu depuis. Et en effet, il est très investi, il est super dans le rôle, hein. Il est très touchant. Et j'étais très très heureuse de le retrouver. C'est très bien entendu que Stéphane aussi, c'était aussi un cadeau. Ça. Les guests aussi sont des cadeaux.
Mais et oui, Armel Dutch, qui est formidable.
Ouais.
Ouais, exactement.
Qui est une copine dans la vie, que je vois peu, mais on s'entend à merveille. Et j'étais très très heureuse aussi qu'elle joue dans le film. Elle est formidable.
Bon, alors, comme je sais à peu près tout, j'essaye du moins, il paraît qu'il y a déjà un 3e et 4e épisode dans la boîte.
Absolument, nous avons les tournées là en septembre-octobre. Oui, oui, oui. Et on continue nos enquêtes ensemble. Pas de chance.
Ben c'est génial ça.
Oui. Ouais.
Ça va donner encore des duos savoureux et quelques petites joutes verbales sympathiques.
Exactement. Ouais. C'est la joie de se retrouver. On s'amuse énormément.
J'imagine, hein, franchement, Anne, que c'est une question qu'on te pose encore tous les jours. Mais tu as incarné un personnage qui a marqué tellement aujourd'hui la télévision, celui de Flore Valorta pendant 4 ans dans Demain nous appartient. Et on sait que le personnage aujourd'hui est en hôpital psychiatrique.
Ouais.
Est-il possible qu'un jour il en sorte?
C'est pas exclu, on verra. Moi, c'était un désir mutuel, un moment de faire une pause, hein. C'est-à-dire, les auteurs étaient peu inspirés par le personnage à un moment. Elle avait traversé beaucoup de choses et voilà.
Ils aimaient te faire pleurer, les auteurs.
Beaucoup. Et moi, c'est vrai, pour des questions de vie personnelle aussi, ben, ma fille grandissant, j'ai commencé la série, ma fille avait 5 ans et elle allait en avoir 10. En 36e, et moi, c'était une vie qui était compliquée pour moi, si je pouvais pas m'installer dans le sud, et je la voyais trop peu, donc, le rythme de la quotidienne devenait vraiment difficile pour ma vie personnelle.
Bon, en tout cas, t'es pas contre un retour éventuel exceptionnel pour une arche, une intrigue éventuelle à l'avenir, en tout cas.
Non, bien sûr que non.
Et ben voilà.
Je serais ravie de retrouver mes camarades que je vois quand je peux à Paris. Oui.
L'appel est lancé.
Je n'appelle pas à ça, mais je ne suis pas, je ne serai jamais contre retrouver mes camarades.
Bon, les projets pour toi aussi, pour les mois qui viennent, on va te voir dans quoi? Est-ce que t'as des projets cinéma, théâtre, télévision qui arrivent aussi?
Alors, qui vont être diffusés? Non, parce que tout a été diffusé, il me semble. Cependant, j'ai normalement 2 projets pour la rentrée, mais je préfère ne rien dire tant que ce n'est pas signé. Donc, d'expérience. Je sais que jusqu'au jour où on se retrouve sur un plateau, même on ne sait pas si ça va se faire, donc je ne préfère pas en parler tout de suite. Voilà.
Et ben, tu reviendras, ça c'est l'occasion.
Avec plaisir. Avec grand plaisir.
Bon,
oui.
On t'embrasse fort et puis on te dit à très très vite. En tout cas, on retrouve Anne Caillon demain soir à 21h10. C'est le 2e épisode de Belfond à ne pas rater avec Wendy Nieto, François-David Cardonnel, Armel Dutch. Bien sûr, il y a plein de beau monde en tout cas autour de Stéphane Bern et de toi dans la série. Merci. Et puis on embrasse également Émilie et Sarah Barbeau, évidemment. Les co-réalisatrices.
Absolument.
Voilà, les 2 sœurs qu'on
merci
aime aussi.
Beaucoup. On les adore.
Merci.
Merci beaucoup, voilà.
Et on
merci
se quitte tout de suite avec un petit extrait. C'est parti.
Il est dit. Belfond et ses stagiaires face à un nouveau défi.
Hors de question que je défende un prof qui a violé une élève.
Si je suis devenu avocat, c'est justement pour éviter les erreurs judiciaires.
Aidez-moi, s'il vous plaît.
En piste.
Traquer la vérité sur le terrain.
Si vous foutez la merde dans mon enquête, je vous jure que j'hésiterai pas à vous coffrer, c'est clair.
Se méfier des apparences.
Pour être un bon avocat, on doit avoir une vue d'ensemble.
Attitude.
Coup de cœur pour Demain nous appartient, vous le savez, c'est la série qu'on suit du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Et régulièrement, nous recevons les héros de la série, et notamment Kamel Belghazi qui joue le rôle de William Donnier. Bonjour Kamel.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Écoute, je crois qu'il y a vraiment 2 rôles qui vont avoir marqué ta vie, celui de Noureddine et puis celui de William maintenant, hein, finalement.
Oui, c'est vrai que c'est un personnage assez présent et ça fait maintenant un certain nombre d'années que je l'interprète avec plaisir. Oui, il marque au même titre que les autres. Hein. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ce ne sera pas le dernier en tout cas.
Oh non, ça j'en suis sûr, te connaissant. Les Donnier ont pris une place tellement importante dans Demain nous appartient. Aujourd'hui, avec les hauts, les bas d'une famille, évidemment, qu'on suit au fur et à mesure de leur pérégrination. Mais déjà, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à l'incarner? En tout cas, c'est William avec toutes ses facettes.
Ah oui, bien sûr, et de plus en plus. Parce que justement, on découvre petit à petit, au gré des scénarios, les différentes facettes de ce personnage. Il y en a encore quelques-unes à explorer. Donc,
c'est pas fini.
Non, exactement, c'est pas fini. Petit à petit, on développe, on découvre, on apprend, on s'enrichit, on enrichit le personnage et on se fait toujours autant plaisir.
Alors toi, c'était ta première série quotidienne, si je m'abuse, Demain nous appartient. Est-ce qu'on se fait rapidement au rythme de tournage qui est tellement intense, le nombre de prises qui est limité, faut aller vite, faut travailler vite, 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 vite. Est-ce qu'on s'habitue facilement?
On finit par s'habituer. L'important, c'est de pas perdre l'envie, c'est de pas perdre le côté artistique, le challenge artistique. Après, il y a un challenge technique qui est là, qui est plus pour le réalisateur et pour toute l'équipe mise en scène et la production. Et nous, on bénéficie du temps qu'on a pour jouer. L'important, c'est d'être prêt. Il y a beaucoup de travail. Moi, je travaille beaucoup en amont, ce qui me permet d'être assez réactif et prêt sur le plateau. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, c'est embêtant, mais ce n'est pas pénalisant.
Alors, il y a pas mal de nouveaux médecins, du coup, à l'hôpital, hein, entre Aaron et Swazik, avec les personnages joués par notamment Charlie Nunn. C'est top que ça se renouvelle aussi un petit peu comme ça. Ça permet de donner aussi un second souffle, de donner la réplique à d'autres comédiens, finalement.
Bien sûr, oui, il y a besoin, avec le départ de Samuel Chardot. C'est vrai qu'il s'est créé un...
Alexandre Varga.
Et d'Alexandre Varga, c'est vrai qu'il s'est créé un vide à l'hôpital qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc il a fallu combler. Et là, il va y avoir peut-être d'autres personnages qui vont arriver, partir. Enfin, c'est le lot d'une quotidienne que de faire bouger les choses pour que les gens ne s'ennuient pas et qu'il y ait toujours des ressorts dramatiques dans ce genre de série.
Il y a un rapport hyper attachant entre toi et le personnage de Manon, évidemment, entre le père et sa fille. Il y a un rapport hyper attachant avec Louvia.
Oui, de plus en plus. Et il y a aussi un rapport qui se développe dans la vie, parce qu'elle grandit, c'est une jeune femme, et elle progresse au niveau du jeu, elle s'embellit, elle devient de mieux en mieux. Et c'est vrai que les scénaristes nous écrivent de belles histoires et de beaux rapports entre un père et une fille. Moi qui ai deux filles, je le prends comme un cadeau en permanence. Et j'aime beaucoup travailler avec Louvia.
Et puis c'est chouette de la voir partir sur les traces un peu de sa mère, finalement.
Oui.
Au grand dam de son père aussi, quand même, et de sa voiture rose.
C'est vrai, j'aurais préféré.
Le vilain.
J'aurais préféré qu'elle vienne faire médecine, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il soit toujours avec nous.
Il y a souvent des scènes de comédie, même s'il y a des scènes tendres, mais il y a aussi beaucoup de scènes de comédie entre toi et Louvia, et notamment toutes ces scènes autour de cette voiture rose que tu lui as offert. Et évidemment, ça a donné des scènes quand même relativement cocasses.
Oui, l'objectif, c'était ça aussi. On en avait parlé avec les scénaristes, c'est de montrer, parce que tu parlais tout à l'heure des différentes facettes de ce personnage. Il y a aussi la facette humoristique, le côté humour de William qu'on n'a pas encore exploré jusqu'au bout, et petit à petit, on met les choses en place, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus.
Ben oui, ça te laisse le temps pour faire d'autres choses, d'autres projets, justement. Qu'est-ce que tu développes pour les mois à venir?
Ouais, ça me laisse du temps pour faire autre chose. D'ailleurs, j'ai fait une mini-série, un 6x52 minutes, qui s'appelle Rivière perdue.
Ah oui, qui a été tournée à Pyrénées-Orientales cet été.
Exactement, aux alentours de Perpignan. Très très beau projet, et j'ai été ravi d'avoir un personnage, de pouvoir jouer dans ce projet avec des très bons comédiens, très bons scénaristes, enfin une très belle histoire, un très bon réalisateur, une super équipe de techniciens. Vraiment que c'était un vrai plaisir d'être sur cette équipe-là pour ce projet-là.
Mais écoute, c'est déjà plein de belles choses qui t'arrivent. Du théâtre aussi, c'est quelque chose que tu aimes?
Ça viendra probablement. L'année prochaine, sans doute, il y a des choses qui se préparent au niveau du théâtre, et je vous en dirai plus quand on aura un peu avancé dans le projet, mais normalement ça se profile, et tous les voyants sont ouverts, on va dire.
Bon, quelques lignes de ce qui va arriver un peu à William dans les semaines qui arrivent.
Oui, de nouveau des petites scènes de comédie assez cocasses avec d'autres personnages. Donc voilà, William reste dans la lignée.
Autour de la famille ou plutôt de l'hôpital, les personnages?
Autour de la famille, un peu de l'hôpital. Donc toujours dans la même lignée de l'humour de ce personnage. Très bien, moi j'adore.
Bah oui, ouais. Écoute, ouais. Franchement, et puis c'est la famille Donnier prend vraiment une importance importante. On te parle encore souvent de Noureddine?
Oui. Oui, bien sûr. Noureddine, c'est le personnage que j'ai incarné le plus longtemps et qui est un personnage emblématique d'une série.
Emblématique.
Comment emblématique? Voilà, je trouve que le mot est un peu faible même. Et évidemment que les gens me parlent toujours.
Série culte. Ouais, je crois qu'on peut y aller.
Exactement, série culte. Et c'est ce qui a fait de moi l'acteur que je suis aujourd'hui et qui m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, ouais, bien sûr, évidemment qu'on me parle de Noureddine. On me parle d'abord et avant tout de Noureddine la plupart du temps. Merci. Je vous ai connu dans une famille formidable. Et là, je vous vois dans ça, mais je vous ai connu dans une famille formidable. C'est une des phrases que j'entends le plus.
C'est la meilleure des reconnaissances.
Oui, moi ça me fait très plaisir, je suis très heureux qu'on me dise ça.
Puis en plus, maintenant, tu te retrouves avec Jennifer Lawrence quand même dans la même série, il faut le faire quand même.
Exactement, exactement. Non, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Même si on n'a pas encore tourné ensemble, je suis très content qu'elle soit là aussi.
Bon, t'as exploré pas mal de choses. Donc, t'auras été cuisinier, grand chef. Maintenant, t'es chirurgien. C'est quoi maintenant que t'aimerais faire? Pompier volontaire une prochaine fois?
Un truc un peu plus de cascade, je sais pas, un truc un peu plus physique, ou un avocat, voilà, ce genre de choses, un truc un peu plus physique, ouais, peut-être ça. Je sais pas encore quoi, mais ce genre de choses. Moi j'adore skier, donc un truc à la montagne, ça me plairait bien.
Ben voilà, l'appel est lancé, Kamel Belghazi attend un petit rôle à la montagne sur des skis. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment du lundi au vendredi dans le rôle de William Donnier, évidemment, et bientôt dans Rivière Perdue sur TF1, aux côtés de Barbara Cabrita et toute une pléiade d'acteurs formidables.
Jean-Michel Tinivelli, Nicolas Gobbe, Bruno de Brandt, Annelise M, Odile Villemin.
Non, je t'ai plus.
Voilà.
À très vite, merci Kamel.
Merci, réalisé par Jean-Christophe Delpia.
Meurtre dans le Cantal qui sera diffusé, eh bien ça sera samedi soir à 21h10 sur France 3. Ça fait toujours un carton en plus cette collection. Et on y retrouve un nouveau duo d'enquêteurs incarné notamment par Alexandre Varga qui est notre invité. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour. Bonjour Alain.
Merci
bonjour
d'être là. Joséphine Jobert aussi. On va retrouver pour notre plus grand bonheur Zoé Séverin qu'on adore aussi à Florence Coste. Deux petites recrues d'ici tout commence qui sont également dans cette série. Benjamin Bourgois, c'est un peu le mélange hein, justement des séries quotidiennes aussi. C'est chouette parce qu'on aime tellement vous voir aussi dans d'autres rôles. C'est ça qui est bien.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis c'est un vrai plaisir de les avoir comme partenaires sur ce téléfilm. Donc ouais, c'est un joli moment qu'on a partagé ensemble.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Frédéric, justement, sur Frédéric Dussault?
Ah, ça a été un personnage, j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter, mais c'est un personnage torturé, rongé par la culpabilité, qui a vécu un drame terrible, celui de perdre un enfant. En plus, il porte le poids de cette culpabilité, étant donné que il a perdu son fils lors d'une promenade à La Réunion, puisque lui, à la base, était affecté comme gendarme là-bas, à La Réunion, et ainsi que sa compagne, son épouse, donc le rôle de Sarah Waro, qui est interprété par Joséphine Jobert, et pendant une randonnée où il décide de prendre son fils avec lui, qui est en bas âge, hein, qui a à peu près dans les 6-7 ans, il a un moment d'inattention et malheureusement, son fils fait une chute mortelle, et à partir de là, c'est le destin de ce couple qui bascule dans le cauchemar.
Et qui vont se retrouver un an plus tard, pour le coup, sur cette enquête, puisque Joséphine Jobert va vouloir venir te retrouver. Voilà, va être affectée, en tout cas, pour t'aider sur cette enquête. On imagine bien que quand tu la vois arriver, voilà, ça fait remonter tellement de choses, c'est très compliqué, vous allez devoir faire équipe.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment après le décès, en fait, lui décide de tout plaquer et de rentrer en France sans vraiment la prévenir en plus de ça. Et il repart dans sa région natale, il rejoint un peu du côté de là où habitent ses parents. Et il est affecté donc dans cette gendarmerie du côté de Murat. Et elle, finalement, un an plus tard, va le rejoindre alors qu'il n'est pas du tout au courant, évidemment. Et elle va demander elle aussi à être affectée dans cette gendarmerie pour être à ses côtés. Mais c'est un peu le choc effectivement quand elle arrive sur ce moment-là, on est sur
la scène de crime, hein, ouais.
Voilà la scène de crime de ce fameux Yann Priva, hein, qui est un restaurateur connu dans la région, réputé, et c'est là qu'effectivement il va se retrouver nez à nez avec elle. Il va d'ailleurs en vouloir beaucoup à sa hiérarchie de pas l'avoir prévenu. C'est ainsi qu'ils se retrouvent réunis, et elle aimerait effectivement recoller les morceaux. J'aimerais malgré tout, malgré le décès de leur enfant, continuer leur vie ensemble, parce qu'elle est toujours amoureuse de lui, et au final elle lui en veut pas. Elle sait très bien, elle connaît les conditions de l'accident, les circonstances, mais lui il veut plus, il est terré dans sa tanière, on va dire, et il veut plus, il a honte, quoi, voilà, il est rongé par la culpabilité, la honte, et il souffre terriblement. Donc ça va amener une relation assez compliquée au début, et qui va tout doucement quand même malgré tout s'adoucir au fil du temps et de l'enquête. Ouais.
Et vont-ils se retrouver et rester ensemble à la fin? Est-ce qu'il y aura un happy end? Il faudra rester jusqu'à la fin du film.
C'est la grande
évidemment pour le voir. On va dire que dans cette enquête quand même sur l'assassinat de Yann Priva, vous avez une liste de suspects impressionnante qui s'allonge. On va découvrir que l'homme était quand même un magouilleur hors pair.
Ouais, c'est ça. On va se rendre compte de toutes ces magouilles, et effectivement, il y a beaucoup de, on va dire, de suspects, et donc ça va venir nourrir effectivement l'intrigue et la complexifier énormément.
Alors, on va y retrouver aussi au casting Pierre Denis quand même, hein, ton patron, Dans Demain nous appartient, en quelque sorte.
Mon patron dans Demain nous appartient, effectivement, et accessoirement mon père dans ce meurtre-là, ouais, tout à fait.
C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on retrouve plein de guests, franchement, qu'on aime tellement. Benjamin Bourgois, qui, voilà, c'est pas compliqué, on l'a gardé avec le prénom d'Alex, comme ça, ça, ceux qui regardent Ainsi grand soleil seront pas dépaysés.
Ah oui, c'est les hasards du scénario, mais ouais, effectivement, il a le même prénom. Ouais.
Mais en tout cas, on est très séduit par tout ce casting. Un meurtre dans le Cantal, c'est à ne pas rater. C'est donc samedi à 21h10. C'est alors, dis donc, Benjamin Ventura is back. Et de retour à 7, pour notre plus grand plaisir, autant dire que les fans se sont déversés sur les réseaux sociaux pour dire leur bonheur de te revoir, en tout cas, à 7.
Oui, absolument. Ouais, c'est un joli retour et voilà, je suis très content. J'ai retrouvé mes partenaires aussi.
On sent pour le coup un Benjamin un petit peu plus apaisé après la mort évidemment d'Alma.
Oui, malgré tout. C'est vrai. Oui. Bah, il a fait. Il est dans son deuil, mais effectivement, il est. Oui, il revient à 7, mais il a plus du tout envie d'exercer le métier de pédiatre. Il a vraiment envie de faire un virage à 180 degrés. Partir sur d'autres choses, c'est vrai qu'effectivement il est en recherche de ça, de sérénité, d'apaisement, et il se cherche encore un petit peu, mais oui, il est plus posé, c'est vrai, absolument.
Mais bon, on a découvert que Soisy, qui a comme à son habitude à essayer de le divertir un petit peu quand même. Alors il y a aussi Cassandre, oui, évidemment, oui. Pour toi. Cassandre aussi, ça c'est une série avec un succès absolument incroyable, et puis des nouveaux épisodes régulièrement, hein, bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'on va voir des nouveaux épisodes bientôt?
Oui, tout à fait. Bah là, je viens juste de terminer justement encore un épisode là. On a fini à la fin du mois d'octobre. On est sur trois nouveaux épisodes là et ça va continuer encore l'année prochaine. Donc on est très très heureux parce que c'est vrai que c'est une
belle aventure.
Super. C'est une très belle aventure. Ouais. Ouais.
Eh ben dis donc, tu chômes pas, hein, en tout cas. Allez, meurtre dans le Cantal. Ouais. Ça c'est samedi à 21h10. On te retrouve aussi du lundi au vendredi à 19h10 dans Demain nous appartient. Et puis prochainement pour de nouveaux épisodes inédits de Cassandre aux côtés de Gwendoline Amont notamment. Merci beaucoup Alexandre. Absolument. D'avoir passé ces quelques minutes avec nous.
Ben merci à vous, merci, c'est un plaisir à chaque fois.
C'est toi qui as découvert le corps, Bobesson.
Moi je pense qu'on était à l'école ensemble, ça me fait tout drôle moi.
Ouais, mais enfin il me semble que vous étiez pas très amis tous les deux, non?
On était en affaires. C'est moi qui fournis son restaurant en viande. Il veut du bio, moi, il voulait. Et c'est aussi moi qui fournis tes parents pour leur table d'hôtes.
Je sais.
Bon, qu'est-ce qu'il avait, Prima, dans la bouche? Un tissu rouge? C'est ça, c'était du crin. Là, c'est le drac. Toujours un gant rouge à la main droite et un gant de laine à la main gauche.
Et la semaine dernière, vous avez vu débarquer une toute nouvelle série inédite sur 13e rue. Ça s'appelle Follow, ou comment des fois les ravages et les dangers justement du numérique et notamment des réseaux sociaux se font ressentir à travers le personnage de Léna. Vous avez peut-être découvert la semaine dernière. En tout cas, je vous encourage à aller voir le replay si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes. La suite, c'est cette semaine. On va en parler avec Marilyn Canto qui nous rejoint. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et qui interprète le personnage d'Agathe. Et Vincent Hennen qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Interprète Samir. Alors tous les deux, vous êtes un peu les enquêteurs. Pour situer un peu ce qui s'est passé, on va dire, dans les deux premiers épisodes, on y suit le personnage de Léna, qui est une community manager, qui vient d'intégrer le département de la préfecture de police de Paris, qui cherche à moderniser son image à travers les réseaux, et qui va se retrouver, eh ben, en fait, en lien avec votre enquête sur un tueur en série qui sévit en coupant un bout de pouce justement, et avec quelque chose d'assez bien rodé et de méticuleux dans ses meurtres. Et donc Léna va se retrouver en prise avec ce tueur en série. Voilà ce qu'on a vu un peu dans les deux premiers épisodes. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet déjà à tous les deux? On va commencer par Marilyn quand même.
Bien sûr. Hein,
mais ce que vous dites exactement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film qui dont l'intrigue est quand même très particulière parce qu'elle passe justement par les réseaux sociaux, par la manipulation, par quelque chose d'assez mystérieux, quoi, de cette chose qui est la communication permanente avec un potentiel tueur qu'on n'arrive pas à saisir. Donc vraiment le scénario, il était très particulier et très haletant en fait. Donc moi c'est ça qui m'a plu.
C'est très addictif, hein, on pourrait presque parler pour Léna d'emprise qui se fait ressentir au fur et à mesure. Vincent, pour toi, qu'est-ce qui t'a plu?
Alors moi c'est l'ambiance générale du scénario. J'ai trouvé l'alchimie entre l'enquête et les dérives des réseaux sociaux assez intéressante et assez captivante. Et puis surtout l'univers 13e rue et le plaisir de retourner avec Louis Farge.
C'était pas une première donc.
Ce n'était pas une première, non. J'avais déjà eu l'occasion de tourner sous la direction de Louis Farge sur également une série 13e rue qui s'appelle Cuisine Interne et pour laquelle on avait été également au Festival de La Rochelle.
Voilà. Où là on découpait, bah, c'était pas la même chose. Hein. Voilà. Depuis vous avez été copié par Fabrice Eboué d'ailleurs. Voilà, on va pas en dire plus. Quel est votre, peut-être votre meilleur souvenir, ce qui ressortira en tout cas, si j'aime bien qu'on se projette un peu dans le futur, si dans 5 ans on vous dit tiens, qu'est-ce que tu retiens en tout cas de Follow et de, du tournage par exemple, Marilyn.
D'abord l'incroyable concentration de cette équipe. On était, c'était pas une très grande équipe, c'était, on était tous persuadés, et on était, tout, on avait tous envie, très envie de faire ce film. Donc je pense qu'il y avait une espèce d'énergie de travail qui était assez rare, très belle. Et je pense que ça sent dans le film, c'est-à-dire que Louis c'est vraiment un grand directeur d'acteurs, un grand réalisateur, vraiment je le pense. On était très unis, voilà, l'unité qu'il y avait sur ce tournage c'est magnifique, mais vraiment.
Vincent.
Je compléterai juste en disant que c'est une des rares fois où j'avais l'impression de travailler en famille. On était tous très complémentaires et tous, comme dit Marilyn, on était habités par l'envie de faire un super projet ensemble.
Quand on est en plus dans une économie de chaîne comme 13ème rue avec une fiction, faut aller vite et tout, on a intérêt à tous aller dans le même sens. Ça, c'est une certitude en tout cas.
C'est surtout que la grande fierté que j'ai moi de concernant Louis Farge, c'est qu'on faisait quand même 8 minutes utiles par jour. Alors 8 minutes utiles par jour.
C'est presque le double de ce qui se fait pour les autres chaînes.
Exactement. Donc c'est on n'est pas dans le confort, mais bizarrement, bah, sous la direction de Louis, et puis avec des partenaires comme Marilyn, bah, tout roulait tout droit.
C'est passé crème.
C'est passé crème, comme on dit, tout à fait.
Bon, on va parler de vos personnages un petit peu à tous les deux. Si on disait Agathe vue par Marilyn.
Alors je dirais que c'est une femme qui est très obsessionnelle, très déterminée, mais qui sous des dehors douces est très tenace, quoi. Vraiment, c'est une espèce de gant de velours dans une main de fer, quoi. Vraiment, je pense que elle joue la douceur, elle joue le calme, et intérieurement elle boue. Ça ne se voit pas, mais ça va se voir au fur et à mesure des épisodes. C'est ça qui était très intéressant. C'était comment le personnage évolue au fur et à mesure de l'enquête, comment elle se révèle au fur et à mesure de l'enquête.
Samir vu par Vincent.
Samir vu par Vincent, je dirais que Samir c'est pour le coup le bras droit de d'Agathe Ruffin, la commissaire. Ils ont une relation un peu particulière. C'est le seul qu'elle appelle par son prénom. Et je pense qu'il y a un côté où elle se reconnaît peut-être un peu. Alors lui dans ce côté un peu fin limier qui lâche pas quoi.
Au début, vous voyez pas forcément d'un bon oeil l'arrivée de Léna quand même. Hein. Et puis finalement, il y a vraiment l'un d'entre vous qui la prend un peu sous sa coupe et qui la prend au sérieux, enfin, quand elle dit « Je crois bien que j'ai parlé au tueur ».
Mais oui, en fait, moi je suis partagée, c'est-à-dire que j'ai besoin d'elle, je l'utilise, clairement je l'utilise, ça m'intéresse qu'elle m'apporte sa connaissance. Et je pense qu'après, je sais qu'elle va vraiment nous aider, j'en suis persuadée et je vais vraiment l'intégrer à l'équipe, contrairement aux autres justement.
Ou à celui qui lui barre la route avant de venir te parler, par exemple, hein, Samir?
C'est ça. Chauvel qui est interprété par Oscar Kopp. Et je pense surtout qu'elle nous apporte une nouveauté dans cette équipe, c'est qu'on est tous un peu des bras cassés des réseaux sociaux et qu'en fait, elle, c'est un peu sa génération et surtout son métier. Donc on est assez complémentaires là-dessus avec l'équipe.
Follow, c'est la série qui nous intéresse hein, cette semaine sur 13ème rue. Vous allez découvrir le 3ème et le 4ème épisode à ne pas manquer. On va se quitter avec un extrait. Je vous dis à très bientôt à tous les deux. Merci Marilyn, merci Vincent.
Capucine de Varennes, 35 ans, suivie par une communauté de 4,5 millions de followers. Elle a les pouces coupés comme les autres victimes.
Nous, on est le visage digital de la préfecture. En gros, je réponds au message. Je crois que j'ai parlé au tueur. Si on trouve les bons indices qui nous amènent au bon compte, on peut peut-être comprendre ce qu'il veut.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, notre coup de cœur plateforme cette semaine est consacré à Mère Indigne qui va être mis en ligne sur France.tv, 10 épisodes que vous allez pouvoir vous délecter des aventures de cette maman un peu dépassée par moment, il faut le dire. On a la chance d'avoir le producteur aujourd'hui, Khaled Amara qui est là, bonjour.
Bonjour, ravi d'être là, merci de nous inviter.
Merci d'être là, on a les deux réalisateurs hein, puisque Anne-Elisabeth est très impliquée dans le projet et co-réalise les épisodes, bonjour.
Bonjour, j'ai écrit la série avec le producteur.
Ah, franchement, c'est presque une histoire de famille là, tous les trois. Et puis Romain Fisson qui est avec nous, qui co-réalise avec toi Anne-Elisabeth, qui est là aussi. Bonjour Romain.
Bonjour, merci de nous inviter, merci de nous recevoir.
Alors, où est venu le projet? Racontez-nous, qui c'est qui a envie de nous pitcher un peu la base, la genèse de Mère Indigne? Khaled.
Alors ouais, je me lance. C'est venu d'Anne-Elisabeth, qui est maman, pas du tout indigne, mais comme les personnages de Rachel dans la série. Elle est venue parce qu'on avait envie d'écrire ensemble déjà, mais ça a été nourri aussi par un questionnement qui va concerner beaucoup de nanas qui sont mamans, mais qui bossent, qui sont amoureuses, amantes, collègues, amies. Et parfois, à notre époque, c'est pas facile de cumuler tout ça et d'être au top tout le temps. Donc voilà, comment une fille de cette génération peut faire face autant que possible à toute cette pression, tous ces enjeux, en riant. Je pense qu'on a réussi le...
On rit beaucoup, franchement, et on rit de bon cœur avec cette maman qui vient d'être fraîchement séparée de son mari. Enfin, c'est plutôt son mari qui s'est séparé d'elle, parce que Harel, elle est pas du tout encore séparée dans sa tête, hein. On a l'impression quand même qu'elle lui court encore un peu après.
Alors, effectivement, c'est elle qui a pris la décision de divorcer, puisque au bout de 10 années à vivre en commun, avec leur petite fille qui a maintenant 8 ans, bon, ils étaient devenus plus colocs que amants, que dans la passion du début, et donc elle prend une très très bonne avocate, elle a une très très bonne avocate, et elle s'en sort plutôt bien de ce divorce, en termes de, voilà, je garde l'appart, j'ai une bonne pension, j'ai la majorité du temps de garde de ma fille, et elle apprend assez vite que son ex-mari sort avec son avocate du divorce. Et à partir de là...
Son avocate à lui, son avocate à elle, c'est plus marrant.
Son avocate à elle.
C'est plus vexant.
Voilà, donc voilà, elle est vexée, trahie, humiliée, blessure d'orgueil. À partir de là, elle commence à se perdre un petit peu. Ouais. Et donc évidemment, la première idée et la plus mauvaise, c'est de se dire, je vais le récupérer, nanana, comme ça, voilà, elle l'aura pas. C'est vraiment l'orgueil qui parle. Et évidemment, elle se heurte un mur. Et ensuite, elle va prendre une série de décisions qui vont l'amener voilà, à être pathétique dans le regard des autres, et ça va se terminer voilà, pas très très bien pour elle.
Ouais, mais il y a plein d'aventures qui vont arriver et qui vont nous faire beaucoup rire, évidemment, entre les deux. Pour la partie réalisation, Romain, quand on met en scène et qu'on réalise avec une comédienne principale qui est aussi co-réalisatrice, est-ce que ça amène des moments truculents entre les deux réalisateurs là?
Ah, je dirais pas truculents, je dirais que c'est tout à fait autre chose, parce que les rôles, ils ont été bien définis très en amont, et que Anne arrivait à la réalisation sans le bagage technique que moi je pouvais amener, et au contraire, moi n'ayant pas écrit la série, j'avais besoin que Anne apporte toute sa vision, toute sa direction artistique. Qu'est-ce qu'elle a écrit vraiment? Qu'est-ce qui doit être dans la série finalement? À part que je jouais de ma position par rapport à elle sur le plateau pour être un peu dictateur, quoi, pour
lui donner aussi
pour lui donner des ordres, pour l'embêter, pour lui dire qu'elle avait dérangé 45 personnes tous les matins pour quand elle était chez elle à écrire son texte, là c'était bien beau, puis maintenant il y a 45 personnes qui se levaient tous les jours pour trimer à cause d'elle, quoi.
Il y a un souvenir particulier de tournage?
Je me souviens que j'avais une tenue, j'avais une robe rouge, un manteau en fourrure bleue et des bottes hautes dorées.
Très sobre.
Ouais, très sobre, mais je me disais quand même un peu bonasse, la meuf. Et Romain me voit débarquer, il dit, ah bah d'accord, Michel Blanc dans tenue de soirée, merci beaucoup, au revoir. Et voilà. Et du coup, à chaque fois que je remettais le costume, c'était bon, on attend Michel Blanc là sur le plateau, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, pour donner l'ambiance.
C'est un compliment, c'est une belle comparaison.
Oui, non, une belle comparaison, mais bon, c'était vraiment très très drôle. Et tout le tournage était rempli de petites choses comme ça.
10 épisodes qu'on découvre sur France.tv. On va s'en délecter, évidemment, je pense, assez vite. Alors, est-ce que vous, en tout cas, vous avez déjà une idée de la suite? Que vous avez envie de faire une saison 2, plus clairement?
Très, très envie. Et après, quand on a vendu la Mérindine, le projet, la saison 1, on avait un petit chapitre, voilà ce qui pourrait se passer en saison 2. Donc on avait quelques idées dans notre tête. Maintenant, on attend le voilà.
Et donc oui, on a une idée de la saison 2. Si c'était le début de la question. Oui, on a une idée de la saison 2, on n'est pas décideur, même si les gens qui ont décidé de nous accompagner sur la saison 1 aiment beaucoup la série. Donc après, c'est à eux de jouer, quoi.
Vous en avez très envie, tous les trois.
Ah oui, complètement, je re-signe quand vous voulez.
Et ben voilà, bon, puis on te retrouve dans Scène de Ménage, évidemment, tous les soirs à 20h30 sur M6. Ça, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, aussi avec ce couple, avec Emma et Fabien, qu'on adore tant aussi. On va écouter la bande-annonce, on va revenir dans un instant, juste après, avec Baya Reaz et Jean-Baptiste Chelmerdine, qu'on va retrouver aussi. On va parler de leurs personnages, de Mathieu et Kenza, dans quelques instants. Merci les amis, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous arrivez en retard une fois sur une, vous menez une vie plus ou moins dissolue.
Est-ce qu'il ne me regarderait pas s'il n'y avait pas une enfant dans l'équation?
Je me fais des soucis pour ta fille.
Oh là, tu te calmes direct, toi.
On danse encore un peu?
Trop parfaite, on ne l'aimerait pas.
Ouais! Je suis moi, et ensuite je suis mère.
N'oublie pas de demander la garde, putain.
Eh, oh, oh.
Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air retarée?
Faut vraiment que tu te reprennes en main. Hein.
Et on parle de mère indigne hein, après Anne-Elisabeth Blateau. Eh bien, rendez-vous maintenant avec Jean-Baptiste Chelmerdine, qu'on est très heureux de retrouver depuis nos chers voisins. Franchement, on ne se quitte plus. Bonjour.
Ben, bonjour. Bonjour, je suis très heureux aussi.
Merci d'être là. Et Baya Riaz, également une habituée de l'émission, qu'on suit depuis très longtemps. Bonjour, Baya.
Bonjour.
Alors, c'est les rôles de Kenza et de Mathieu. Voilà, qu'on va découvrir dans cette série. On va parler de vos rôles un peu à tous les deux. Oui. Parce que Mère Indigne, ça débarque sur France.tv. Et c'est une série où Anne-Elisabeth a donné beaucoup de, justement, et très impliquée, aussi. Donc, c'est un projet, je sais qu'il y tient énormément à cœur. Qu'est-ce qui vous a attiré en tout cas dans ces filets?
L'écriture, c'est très drôle à la lecture, vraiment très drôle. J'ai eu des fous rires toute seule et le propos est très très concernant. Je suis moi-même maman de deux enfants et donc parler de la charge mentale et de la maternité, ça ne pouvait que me parler. Donc vraiment, c'était les deux gros arguments pour me faire venir. Et en plus, le rôle de Kenza est un rôle d'une épaisseur hyper rare, je trouve. C'est un personnage très complexe. Je voyais déjà que j'allais avoir du bonheur à l'interpréter parce qu'elle a un superbe parcours.
Pour toi, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui t'a attiré dans les filets d'Anne-Elisabeth Thérouma?
Alors moi, je connaissais un petit peu Anne-Elisabeth, que j'avais pas vu depuis longtemps. Quand elle a proposé à mon agent et donc mon agent m'a proposé, j'étais déjà très touché qu'elle pense à moi. Je trouvais que c'était une très bonne idée de se retrouver puisque moi j'ai fait Nos Chers Voisins, elle scène de ménage, et du coup c'était marrant de faire une sorte de crossboard. Et du coup j'ai lu et j'ai trouvé super. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai lu quasiment tout en un soir. Moi je me couche tard, donc j'ai dû finir à 3h du mat. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, la première pensée que j'ai eue, c'est ah, je vais continuer à... J'avais envie de rester avec les personnages, sauf que j'avais lu les 10 épisodes et du coup il y avait plus rien à lire.
Vos personnages à tous les deux, comment vous les définiriez?
Alors Kenza, c'est une maman qui subit la pression sociale de plein fouet, mais qui a décidé de l'embrasser, si je peux dire. C'est-à-dire que elle veut être la mère parfaite. Et du coup, elle a une espèce de posture sociale qui peut être très déconcertante pour les autres mamans qui n'assurent pas comme elle.
Elle va même donner des conseils, quoi, presque. Hein.
Elle va donner des conseils, et puis pour elle, il y a une manière d'éduquer les enfants, et il faut le faire comme ça, de sa manière. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que derrière ça, forcément, il y a des fragilités, parce que tout ça n'est qu'une posture, et forcément, elle le vit pas aussi bien que ça. C'est une sorte d'équilibriste, voilà.
On va découvrir tout au fil de ces épisodes. Alors Jean-Baptiste, on y revient du coup. Ce personnage de Mathieu, t'as eu le temps de réfléchir du coup?
Ouais, en fait il est assez double, parce que quand il fait, c'est un fêtard, quand il fait la fête, il fait vraiment la fête, salement même je dirais. Mais par contre, il est gérant d'une boutique de fleurs, et quand il est au taf, et d'ailleurs il en ouvre une deuxième dans la série, et quand il est au taf, il est très 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 carré, ce qui va créer des tensions avec mon amie d'enfance, qui est donc jouée par Anne-Elisabeth, parce que elle a du mal à gérer tout. Et que moi, quand je suis au boulot, je suis pas du tout en train de faire la fête.
On a tendance, quand on a des réalisatrices du coup, parce que vu qu'elle est aussi à la réalisation, et qu'on connaît en plus la réalisatrice, que c'est des fois une amie hein, pour certains, est-ce que ça te met une petite pression supplémentaire ou pas?
Moi oui, parce que je connaissais Anne.
Et tu connais le métier de réalisatrice toi, hein, plus que jamais aussi.
Et ben justement, j'ai connu Anne comme ça, parce que je la dirige dans Scène de Ménage, et donc je ne la connais, elle me connaissait qu'en tant que réalisatrice, et elle m'a proposé le rôle sur mon travail de réalisatrice. Et du coup j'avais une pression, parce qu'elle s'est dit, elle me disait, j'adore comme tu travailles, pour moi tu t'y connais en comédie, c'est sûr, je sais pas comment tu joues, mais je sais que tu vas assurer sur ce rôle. Et du coup j'avais une pression énorme, parce que c'était un énorme pari qu'elle faisait sur moi, et j'avais à cœur de ne pas la décevoir.
Vous avez switché, voilà. Du coup vos rôles, là, toutes les deux. Pour toi, Jean-Baptiste?
Non, moi j'avais... En fait, moi je me mets toujours une pression très grande, quels que soient les projets. Donc de toute façon, je suis déjà au max. Et au contraire, je pense que d'avoir Anne-Elisabeth en co-réal, donc que je connaissais, et en partenaire principal, ça m'a plutôt détendu, parce que je me suis dit, si elle m'a choisi, c'est qu'elle sait que vraiment...
Ça colle au personnage.
Ouais.
C'était dingue, on avait un espace de création et de liberté incroyable. C'est-à-dire que on est dans des économies qu'on connaît, ces économies du digital, on les connaît, on va pas se mentir, mais on avait la place et l'espace pour proposer des choses et se dire... on en fait une ou deux et on essaye comme ça, et puis après on voit si ça marche, si ça marche pas. Moi je te propose autre chose, viens, on se rejoint au milieu. Et ça c'était vraiment génial.
On termine par vos projets à tous les deux.
Alors moi je suis en tournée avec Cartman et Laetitia Millot pour une pièce qui s'appelle Indigné d'adieu, des auteurs qui avaient fait Le Prénom. Et après après il y a des choses mais c'est pas signé donc
on attend, tu reviendras. Baya, de mise en scène un peu de la réalisation, du long métrage peut-être aussi bientôt.
Non, pas de long métrage malheureusement, mais je vais répéter pour une pièce que je jouerai de janvier à mai au théâtre Le Pic à Paris.
Voilà, merci à tous les deux, merci Baya, merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous pour cette spéciale Mère Indigne qu'on va découvrir sur France.tv, on va pouvoir se délecter puisque tous les épisodes vont être mis en ligne d'un coup en plus.
Regardez, je peux finir, regardez parce que c'est très drôle et c'est en même temps très émouvant et très vrai.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand honneur de recevoir Lajli qui sera notre invité exceptionnel pour la sortie du film Bâtiment 5. On aura également l'occasion de recevoir l'équipe de Répercussion avec notamment les producteurs mais aussi la réalisatrice et puis Marie Desnarnaud qui sera avec nous sur France 2. Ça sera diffusé le 6 décembre. Soudain Seul également, c'est la sortie cinéma à ne pas manquer. Mélanie Thierry et Thomas Bideguin seront nos invités pour en parler évidemment. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur mazagran-immobilier.com.